Edgar Morin, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais que tu nous parles de la genèse, de la recherche merveilleuse que tant de sociologues adorent, et pas seulement des sociologues, sur la rumeur d'Orléans. Comment est venue l'idée? Comment elle a été financée?
Oui.
Quels ont été tes premiers contacts? Le terrain? Voilà. Je trouverais très important de réfléchir à l'antisémitisme à partir de cette expérience.
Très bien. Bon. Tout d'abord, il faut dire que j'avais constitué ce que j'appelais un groupe de diagnostic sociologique ou de sociologie du présent, qu'il avait pu faire deux enquêtes, grâce d'ailleurs à l'époque au Club du Nouvel Observateur, parce que nous, l'enquête qu'on pouvait faire, c'était sur un problème immédiat qui nous suscitait une interrogation. Donc le CNRS et les organismes publics mettent un an avant de donner des crédits. Donc grâce au club, on a fait une enquête sur, et c'est l'époque de Madame Soleil, sur le retour des astrologues. Et notre découverte la plus importante, c'était que l'astrologie, c'est pas seulement les trucs des journaux, etc., les horoscopes, mais qu'il y avait une astrologie d'élite où tous les gens qui ont des carrières aléatoires, les chefs d'entreprise, les vedettes de cinéma, les acteurs, tous ces gens-là pratiquaient une astrologie très personnalisée. Bon. Et puis on a fait une autre enquête, où a collaboré du reste Nicole Lapierre, qui s'appelait La femme majeure, où elle a découvert qu'après 68, la presse féminine avait fait une transformation. Avant 68, elle disait, enfin la presse magazine, disait aux femmes, ah, soignez vos petits maris, faites-leur de bons petits déjeuners, soyez gentilles, vous soyez heureuses. Après 68, c'est, ah, attention, les maris parfois vous quittent pour une femme plus jeune, vos enfants vous abandonnent, luttez courageusement contre le destin. C'est-à-dire, on avait compris que c'était plus l'euphorie, mais qu'il fallait. Enfin. Bon, là-dessus, c'est un groupe potentiel, on attendait, il n'avait pas les moyens, et je lis dans les journaux qu'un certain nombre de commerçants juifs sont victimes d'agressions parce qu'ils auraient, enfin, soi-disant, kidnappaient des jeunes filles dans les salons d'essayage pour les envoyer, les endormir et les envoyer après dans des bordels du Moyen-Orient. Ça m'a semblé extrêmement bizarre. Et je m'étonnais de tout ça. Lorsque j'ai été contacté par un monsieur dont le nom m'échappe maintenant, qui à l'époque s'occupait du Fonds social juif unifié, je ne sais pas si tu vois de qui il s'agit, enfin. Et cet homme qui dit, est-ce que vous voulez enquêter là-dessus? Nous, on vous donne des petits moyens pour vous déplacer et passer quelques jours avec votre équipe à Orléans. J'ai dit tout à fait, parce que c'est très intéressant. Et alors à ce moment-là, je réunis ma petite équipe et nous allons à Orléans. Et alors là, je dis stratégie d'enquête, premier élément, vérifier dans les commissariats s'il y a disparition de jeunes filles. Et bien entendu, aucune jeune fille avait disparu, ce qui nous montrait qu'il s'agissait d'une rumeur non fondée, alors qu'il peut y avoir parfois un fondement, un événement. Alors, on s'est interrogé, nous sommes tous les jours, enfin, je veux dire que même deux fois par jour, on réunissait l'équipe, on se redispersait, on allait chez des commerçants. J'ai fait un déjeuner sociologique avec tous les commerçants qui avaient été victimes de ces accusations. Et d'abord, ce qui était très intéressant, c'est de se rendre compte que un très grand nombre de jeunes filles et de jeunes femmes croyaient en cette rumeur, que même une professeure de lycée juive y croyait aussi, bien entendu pas par antisémite, mais parce que pensant qu'il y avait une organisation mafieuse là-dessus, que les hommes y croyaient un peu moins, mais qu'il y avait cette croyance, enfin qu'elle était absolument répandue. Et à ce moment-là, les idées banales, c'est de dire, ça vient d'un groupement d'extrême droite antisémite, ça vient des étudiants arabes de l'université voisine. Enfin, on cherchait une cause politique immédiate. Et nous, en cherchant, d'abord on s'est rendu compte que cette rumeur, disons, avait non pas une source, mais quand même une préhistoire dans une croyance assez répandue en Provence, que dans les bals populaires, souvent des jeunes filles naïves étaient victimes de séducteurs qui, après les avoir embobinées, les prostituaient. Et puis on a découvert qu'il y avait eu dans une revue, je ne sais plus laquelle d'enfant, un article où il n'était pas question de commerçants et de juifs, mais de kidnapping de jeunes filles dans des maisons. Ce qui était très intéressant, c'est que les commerçants visés étaient des commerçants jeunes, modernes, qui faisaient des mini-jupes pour les jeunes filles devenues très modernes, qui se fardaient, etc. Mais que les vieux commerçants juifs du coin, ceux qui avaient encore un accent yiddish ou autre, n'étaient absolument pas visés. Alors, finalement, on se disait, c'est curieux, voilà des commerçants qui ressemblent à tout le monde. Et, dans le fond, la rumeur, comme si veut la foudre, atteint sa cible, atteint cette cible. Alors, c'était inévitable qu'on arrive à l'idée, au fond, dans l'inconscient de ces jeunes filles et de pas mal de gens, il y a cette idée de l'inquiétante étrangeté du juif. Cette idée d'inquiétante étrangeté très freudienne, mais était là. Et qu'à un moment donné, ces jeunes filles devenues très modernes apparemment, mais restées encore assez sages, entretenaient en elles une sorte de peur du viol, de je ne sais pas, et que dans le fond, cette crainte des jeunes filles, que plus elles étaient apparemment modernes, plus elles étaient craintives, disons, de se faire embarquer dans une sale affaire, liées à la présence de leur subconscient de cette idée d'étrangeté, donc faisait que finalement ces commerçants étaient visés.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'était ces jeunes filles qui étaient à l'origine de la rumeur, ou est-ce qu'on projetait sur ces jeunes filles des peurs de cette modernité, et je dirais, de cette ouverture à quelque chose qui est un peu le climat de 68?
Alors, nous nous sommes rendus compte, après l'enquête, que cette même rumeur avait existé dans d'autres villes de province, mais que elle n'avait pas percé les médias, elle n'était pas arrivée jusqu'aux médias. Pourquoi cette rumeur d'Orléans était arrivée aux médias? Parce qu'il y a eu une fois un attroupement menaçant devant l'un des commerçants et que la fille d'un des commerçants est allée à Paris alerter je ne sais quelle institution juive, peut-être le Fonds social juif, en disant voilà, et que les journaux ont commencé à parler. Mais les autres rumeurs sont restées en vase clos. Mais du coup, une fois que le livre est sorti, on nous a dit, mais il y a eu ça. Il y a eu la rumeur d'Avien que mon ami et collaborateur Claude Fichtler a étudié et qui relevait de la même structure. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y avait un élément extérieur. Et du reste, ça, c'était une rumeur beaucoup plus significative que d'autres rumeurs, comme par exemple la rumeur des commerçants chinois qu'on aurait pu étudier, c'était des restaurateurs chinois, par exemple, qui, sous prétexte de canard laqué, donnent du rat laqué, etc. Non, on a vu que c'était la source pouvait venir de la divulgation de bouche à oreille d'un article de magazine parlant de kidnapping de jeunes filles chez des commerçants qui n'étaient pas du tout juifs, mais enfin d'un article semi-imaginaire, disons. Plus, alors, ceci a joué, et ça s'est... disons, tout le mal s'est fait d'un bouche à oreille. Comment ça a commencé, nous ne savons pas. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que notre livre est apparu, dans lequel non seulement on donne les résultats, mais on raconte le déroulement de l'enquête, et chaque collaborateur fait son journal d'enquête, c'est-à-dire on donne toutes les cartes. Ce qui est donc intéressant, c'est que quand le livre est paru, il n'a pas tué la rumeur, il l'a coupée en morceaux. C'est-à-dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose de louche quand même. Donc, ça a été... Bien entendu, il y a des milieux enseignants, intellectuels, qui ont compris rapidement que c'était une erreur. Mais dans beaucoup de gens, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là ? Il y a quelques... Et si tu veux, on peut dire que notre étude a été utile, mais pas fondamentalement à Orléans même. Bien entendu, par la suite, j'ai fait des conférences à Orléans sur la rumeur, etc. Il y a eu tout un public qui a été démythifié ou démystifié. Mais, alors, dans le fond, ce que je crois qui est important, c'était que sans qu'il y ait besoin d'une propagande anti-juive, sans qu'il y ait une incitation politique, idéologique de ce côté, il y avait quand même, c'est de façon très curieuse, ont été immédiatement ciblés des commerçants juifs. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'inconscient collectif français, pour un certain nombre de gens que je ne peux pas quantifier, il y a qui sont absolument pas anti-juifs ou antisémites, demeure quand même quelque chose de latent. Le juif, bon, c'est peut-être un homme, mais il n'est pas comme nous. Il y a quelque chose qui est différent de nous. Il y a cette différence mystérieuse, d'autant plus mystérieuse qu'on sait que les rabbins parlent un hébreu que personne ne comprend. Enfin, je veux dire qu'il y a le côté mystérieux du culte, mais, etc.
Oui, mais Edgar Morin, ce qui est très étonnant et qui donne vraiment beaucoup à réfléchir, c'est que ce ne sont pas ceux qui sont visiblement différents parmi les commerçants juifs d'Orléans qui sont visés. C'est pas ceux qui ont un accent yiddish, c'est pas ceux qui incarnent une image traditionnelle. Oui. Non, c'est ceux qui ont l'air d'être comme tout le monde. Oui. Ce sont ceux qui n'ont plus aucune différence apparente.
Eh bien, c'est peut-être un des éléments, peut-être, d'une explication, c'est que le commerçant juif qui a son accent yiddish, le vieux, il est bien typé, il est bien classique. Mais celui qui nous ressemble trop, eh bien, celui-là, c'est bizarre, parce qu'il est quand même juif. Donc, il porte en lui un mystère de judaïsme que le juif, non, entre guillemets, étranger d'origine polonaise ou autre, ou russe, n'est pas, on sait très bien, c'est le commerçant juif. D'ailleurs, en plus, il ne s'intéresse pas aux jeunes filles, il vend des choses pour les dames, pour les femmes en général. Donc, il y avait ce côté-là, plus le côté jeune fille menacée. Et le côté jeune fille menacée fait que les parents, même les mères elles-mêmes, ont été extrêmement inquiètes. Et dans le fond, ce qui était assez curieux, c'était le déroulement même de la rumeur. Parce que, bon, la rumeur classique, c'est quoi ? Elles vont au salon d'essayage, là-dessus, on les anesthésie, là-dessus, il y a une trappe qui s'ouvre, bon, et puis une fois qu'elles sont endormies, il y a la Loire, il y a un bateau qui va les prendre, et on les embarque pour le Moyen-Orient ou une autre région. Et il y a des versions plus sophistiquées, un peu grotesques, mais qui n'ont pas tellement... qui ont circulé un peu, disant qu'il y avait un sous-marin qui était de la Loire, qui transportait. Bon, il y a eu des versions exagérées, mais c'était une version devenue absolument classique. C'était une évidence pour les gens.
Alors, quel est l'impact d'une rumeur comme celle-ci ? Les commerçants donc, sont l'objet de menaces, les commerçants sont disqualifiés, les gens arrêtent de faire leurs courses.
Ben, je crois que quand même, par la suite, ils n'ont pas été disqualifiés. Enfin, un des rôles positifs, c'est que si la rumeur a été coupée en morceaux, l'idée que leur salon d'essayage était un traquenard, elle a quand même disparu. On dit, il y a quelque chose là-dessous. C'est pas ça, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. L'idée, c'est qu'on ne veut pas renoncer à l'idée qu'il y a eu une sorte de complot. Voilà, on a le besoin d'une version complotiste de l'histoire et de ne pas penser qu'on a cru à quelque chose qui n'était que du vent. Ça, c'est une chose, je crois, importante. Mais les commerces, mais ça, moi j'étais après Orléans, ça avait repris, et il n'y avait plus cette peur localisée. Mais je te répète, la chose intéressante, c'est de, même à Paris, revient cette rumeur et qui après s'évapore. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était pas, d'ailleurs, c'est ça que je suis aussi très content, au lieu de chercher une interprétation typiquement locale à Orléans, avec Jeanne d'Arc, avec je ne sais quoi, toute mon enquête montrait que c'était un phénomène de nature plus générale. Bien entendu, je ne généralisais pas, je ne connais que ça, mais tout ce que j'ai appris après, toutes les lettres que j'ai reçues, l'enquête de Claude Fischler, d'autres choses, ont montré que cette rumeur surgissait de temps à autre et s'évanouissait au bout d'un certain temps. Donc, si tu veux, c'était un phénomène quand même beaucoup plus significatif que je le pensais.
Tout ça est quand même très réconfortant sur le rôle de la sociologie. S'il n'y avait pas eu ton enquête, le livre qui en a suivi, les débats, les discussions, les conférences, etc., peut-être que les choses auraient pris un autre tour. En tout cas, comme tu dis, tu as cassé la rumeur en morceaux, ce qui est quand même un énorme progrès. Tu lui as interdit de fonctionner sur le mode mythique qui oui. fusionne tout. Et donc, moi je trouve que c'est une bonne chose que les sciences sociales aient une utilité dans une affaire comme celle-là, c'est très clair.
Oui, c'est très vrai. Mais malheureusement pour moi, cette façon d'enquêter, cette façon, au lieu d'avoir une sorte de méthode, de programme préfabriqué, d'avoir une stratégie qui s'adapte aux événements, cette façon de travailler était absolument maudite chez la plupart des sociologues officiels. C'est-à-dire que si ce livre a été un peu reconnu, grâce à son thème, si tu veux, la sociologie officielle le considérait comme un livre déviant, comme un livre qui n'est pas dans la norme. Et du reste, toutes les autres enquêtes que j'ai faites, comme celles dont j'ai parlé, des astrologues, tout ça, sont restées des enquêtes déviantes par rapport... Autrement dit, c'est vrai que ça a permis à cette sociologie de se faire un peu connaître. Mais c'est un peu comme quand j'ai commencé à étudier le problème de l'adolescence rebelle en 63. Ni la jeunesse ni l'adolescence ne faisaient partie des catégories sociologiques. Et donc j'étais toujours un déviant ou un cingloïde. Voilà. Donc cette enquête, j'en suis très content. Et surtout de montrer que, en 3 jours et 3 nuits, parce que ma méthode consistait à dire, une fois qu'on n'a que des répétitions de ce que nous savons, c'est fini. Donc, une fois que de partout, on avait les mêmes résultats, les mêmes conclusions, les mêmes faits, on s'est dit inutile de continuer. Donc, une réussite en 3 jours et 3 nuits, parce qu'on a travaillé de nuit aussi. Et avec une équipe qui était très emballée, si tu veux, par le thème et par cette recherche qui leur donnait beaucoup d'initiative et beaucoup de vitalité.
C'est une rumeur qui nous apprend beaucoup sur l'antisémitisme. Est-ce qu'on pourrait imaginer des rumeurs de ce type qui auraient la même force, la même prégnance s'il n'y avait pas eu ce thème juif ? Parce qu'évidemment, ce thème des juifs maléfiques, c'est un thème très ancien. Est-ce que ce type de rumeur pourrait viser d'autres groupes que les juifs dans un pays comme le nôtre ?
Non, parce que les rumeurs visant d'autres groupes sont d'un autre type. Par exemple, il y a une rumeur visant des restaurateurs chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils semblent aussi mystérieux à leur façon et que leur canard laqué peut-être cachait des rats. Bon, donc si tu veux, il y a aussi une autre étrangeté chez les Chinois. Il y a aussi une rumeur sur les yuccas, c'est-à-dire ces plantes tropicales dans lesquelles il y a un insecte mortel. C'est-à-dire, là aussi, c'est une peur, mais qui est liée à ce qui vient des tropiques et qui est l'inconnu. Donc, si tu veux, de toute façon, il y a une sorte de peur par rapport à que ce soit de l'exotisme, de l'étrangeté, quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, bien de chez nous. Donc, si tu veux, les Juifs ont été victimes de cette épreuve. Bon, les Chinois, d'une certaine façon, mais enfin, ils ont continué leur restaurant. Et les marchands de plantes tropicales, là aussi, peut-être, ils ont eu leur bande. Et puis, tu sais, il y a peut-être d'autres rumeurs, parce que, en réalité, les médias n'ont pas les antennes pour détecter le bouche à oreille, tous les bouches à oreille. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des rumeurs qui peuvent plus facilement se propager à travers Internet, et que grâce à Internet, nous pouvons les détecter. Et nous détectons un certain nombre de rumeurs, comme sur les attentats du 11 septembre, enfin, sur un tas d'autres choses, avec toujours l'idée d'un complot souterrain. Là, c'était pas un complot, disons, de type officiel, mais c'était un complot spontané, c'est-à-dire que les Juifs qui voulaient profiter de ces jeunes filles pour leur faire des prostituées. Donc, si tu veux, nous sommes dans un monde où, malgré la presse, plus ou moins libérale, parce que dans tous les pays totalitaires, circulent à la fois des informations vraies et des rumeurs fausses, puisque les gens ne font plus confiance à la presse. C'est ce qui s'est passé en URSS, notamment. Hein. Mais là, en France, où à l'époque il y avait une presse assez ouverte, maintenant ça change un peu, mais malgré ceci, il y a tout un monde de bouche à oreille qui existe. Et d'ailleurs, après, il y a eu un ou deux types qui se sont spécialisés dans les rumeurs, etc. Mais moi-même, avant d'étudier cette rumeur, j'avais étudié les enquêtes américaines sur des rumeurs qu'il y avait aux États-Unis, et j'ai toujours cru... J'ai cru à l'importance des rumeurs parce que j'ai vécu l'importance énorme sous l'occupation de deux rumeurs. La première, c'était peu après la défaite, ce qu'on appelait les prophéties de Sainte-Odile, où Sainte-Odile aurait prédit la défaite des Allemands. C'est-à-dire que c'était des rumeurs d'espoir. Mais la deuxième est extraordinaire. La deuxième disait ceci: les Allemands ont tenté de débarquer en Angleterre. Mais une fois qu'ils ont approché des côtes anglaises, les Anglais, pas fous, avaient mis de l'essence sur la mer, ils ont mis le feu à l'essence et toute la flotte allemande a cramé. Et la preuve, c'est que par mon cousin, je sais qu'il a vu un cadavre d'Allemand brûlé, rejeté sur la mer. Alors, toute rumeur, et celle d'Orléans y compris, je le sais de source directe, parce que mon frère, mon cousin, tel flic, telle personne de confiance me l'a dit. C'est-à-dire que jamais la personne n'a la vision directe, mais il a une personne sûre. Et dans le fond, c'était ça qui est aussi très intéressant, c'est que la certitude ne vient jamais de l'expérience vécue, mais de la foi en quelqu'un de fiable. Et cette rumeur sur l'occupation, mais tellement de gens l'ont cru, et ça leur a donné l'espoir aussi. Donc c'est une rumeur positive.
Quand tu as fait cette enquête là-bas, est-ce que tu as eu le sentiment qu'à Orléans, il y avait des gens qui étaient outrés par cette rumeur, qui voulaient la contrer, qui voulaient et donc qui étaient heureux que tu viennes faire cette recherche? Autrement dit, est-ce que dans certains milieux, dans certains groupes, dans politiques, religieux, que sais-je, des gens t'ont fait savoir que c'était vraiment bien que tu viennes et qu'ils t'attendaient en quelque sorte?
Ben, à Orléans, il y avait bien entendu des gens de gauche, des gens qui n'étaient absolument pas antisémites, et des gens qui commençaient à penser qu'il y avait quelque chose de louche, mais ces gens-là cherchaient la cause, disons, comme je l'ai dit, dans un groupement fascistoïde ou antisémite ou dans des étudiants arabes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que il y avait des gens qui avaient conscience que c'était faux. Mais le vrai problème, c'était d'où ça vient. Et moi, je crois que la vertu de l'enquête est d'avoir montré que la source n'est pas superficielle, elle est dans les profondeurs archaïques qui sont dans le subconscient des gens, c'est-à-dire qu'on se dé... Putain, il y a quand même des millénaires dans le monde chrétien et français où le juif est non seulement quelqu'un de dangereux qui fait des complots, qui sacrifie des enfants... Enfin, bon, tout ça, c'est peut-être balayé, mais il reste de tout ça. Et puis c'est l'usurier, c'est ça. C'est le type avide de fric. Donc, le juif porte en lui, même quand il est innocenté, même quand il est intégré, même quand il est là, dans des profondeurs inconscientes d'une partie importante de la population, il garde cette inquiétante étrangeté et que ça peut encore se réveiller.
Ce qui est terrible, c'est que cette étrangeté est cachée. Et plus on montre qu'elle est fausse, plus c'est la preuve que les Juifs sont vraiment forts, puisqu'ils arrivent vraiment bien à la dissimuler.
C'est cercle vicieux, mais c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est de penser que effectivement les Juifs sont porteurs d'une histoire de ségrégation et de persécution, et que ça a marqué. C'est-à-dire de penser qu'ils portent en eux cette victimisation réelle. C'est comme, moi, tu sais bien que je ne suis pas du tout partisan de la politique israélienne, les Palestiniens, mais ils portent en eux l'idée que ça peut recommencer d'une autre façon, d'autant plus qu'ils sont dans un monde hostile. Donc, il y a quelque chose qui entretient quand même la... Il y a une différence historique, mais le problème de la compréhension d'autrui, c'est de reconnaître l'autre dans son identité commune et dans son différence culturelle ou autre. Et c'est ça qui est très difficile. Voilà. Moi, je crois que c'est ça qui est très important. Il y a quand même, on porte en nous toute une histoire et dont on est nous-mêmes conscients. Et qui nous rend à la fois, mais en même temps, on se sent très français, on se sent très européen, on se sent citoyen du monde, enfin, en tout cas c'est mon cas, mais quand même il y a quelque chose qui fait une différence mais dans l'identité. Mais quand on perd l'identité commune et qu'on ne voit que la différence, là c'est terrible.